Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue pour la conférence Alten, chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021. Pendant la durée de l'appel, vous serez uniquement en écoute, mais vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la présentation. Cela peut être fait en appuyant sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil pour enregistrer votre question. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Bruno Benoliel, directeur général adjoint, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Monsieur, c'est à vous.
Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cette conférence est déjà l'occasion de vous souhaiter à chacun d'entre vous une excellente année 2022, en espérant que l'on en finisse enfin avec la pandémie et que notre vie retrouve vraiment son cours habituel. Les incertitudes géopolitiques et économiques, inflation, taux, profondeur de la reprise économique, sont autant de facteurs qui peuvent influer sur le déroulé de cette nouvelle année qui commence, rendant la prévision plus aléatoire, probablement et finalement, que l'an passé. Il y a un an, justement, au début de l'année 2021, nous n'aurions pas parié sur une évolution aussi rapide de l'amélioration de la situation sanitaire et donc économique, et encore moins sur un rebond aussi puissant. Pourtant, cette année surprenante aura quasiment effacé la crise sanitaire et, hors acquisition, Alten a retrouvé, à la fin de l'année 2021, le niveau d'activité qui était le sien fin 2019. Et ce n'était pas gagné. La reprise de l'activité, qui s'était amplifiée au troisième trimestre, a confirmé son rythme au quatrième trimestre, malgré un effet de base plus défavorable, dans la mesure où l'activité avait commencé à se redresser à l'issue de deux trimestres consécutifs de forts reculs. Dans l'automobile et dans l'aéronautique civile, secteurs les plus touchés par la crise, le niveau d'activité reste encore inférieur à celui de l'avant-Covid, même si l'activité a redémarré plus précocement et plus vigoureusement qu'anticipé dans ces deux secteurs. Dans tous les autres secteurs, comme nous le verrons plus tard, le niveau d'activité d'avant-crise a été dépassé. Le chiffre d'affaires du groupe Alten, à fin décembre 2021, s'établit donc à 2,925 milliards d'euros, en hausse de 25,4% par rapport à décembre 2020. En France, l'activité a progressé de 13,7% et de 32,9% hors de France. À données constantes, périmètre et change, l'activité a progressé de façon soutenue de 12,9%. Elle progresse de 8,4% en France et de 15,7% hors de France. Les acquisitions ont contribué à la moitié de la croissance totale cette année, et ont représenté environ 10% du chiffre d'affaires. L'international représente désormais 65% de l'activité du groupe. Les données du quatrième trimestre, plus particulièrement, sont les suivantes. Notre activité a progressé de 40,1%, 26,4% en France et 48,5% hors de France. La croissance organique a atteint ce trimestre encore 23,2%, 17,7% en France et 26,6% hors de France. Le taux d'activité est resté élevé. Il a été de 92,7% au quatrième trimestre, après 92,9% au troisième trimestre. Sur le second semestre, il est donc de 92,8% et de 91,5% sur l'ensemble de l'année, le premier trimestre ayant porté les stigmates de la crise sanitaire. Au second semestre, notre taux d'activité est donc supérieur au taux normatif moyen du groupe qui est, comme vous le savez, de l'ordre de 92 à 92,3%, mais il reste légèrement inférieur à ce taux sur l'ensemble de l'année. Les effectifs du groupe ont progressé de 8500 personnes en 2021, dont 7750 ingénieurs. En conséquence, nous sommes 42 300 collaborateurs à fin décembre 2021, dont 37 150 ingénieurs. Pour rappel, nous étions 33 800, dont 29 400 ingénieurs il y a un an, à fin décembre 2020, et 38 500, dont 33 800 ingénieurs, fin juin 2021. En tenant compte des acquisitions que nous avons réalisées fin 2021 et que nous avions annoncé lors de la précédente publication, à savoir une société en Inde avec un petit front office aux US et une société en Chine avec une activité aux US également. Ces deux sociétés qui seront consolidées à compter du 1er janvier dans le PNL du groupe. En tenant compte donc de ces deux acquisitions, au 1er janvier 2022, nous étions 45 500 personnes, dont 40 000 ingénieurs. Les effectifs ingénieurs ont donc continué à croître au dernier trimestre à un rythme équivalent au trimestre précédent, soit environ 1400 ingénieurs. Hors acquisition-cession, nos effectifs ingénieurs se seraient élevés à 34 393 collaborateurs, soit une augmentation séquentielle entre fin décembre 2020 et fin décembre 2021 de 4 993 personnes précisément, disons 5 000, 480 en France et 4 515 hors de France. Par principale zone géographique, l'activité est la suivante. En France, tous les secteurs sont en progression, à l'exception de l'automobile, toujours en net retrait par rapport à 2020, pénalisé par les constructeurs. La France reste encore en deçà de son activité pré-Covid d'environ 15%. La reprise du secteur aérospatial s'est accélérée au dernier trimestre, même si l'activité est encore 13% en deçà de fin 2019. Pour mémoire, nous étions quand même en France à moins 45% dans le secteur aérospatial il y a un an. Les secteurs porteurs restent l'énergie, 16% du CA, la pharma, 10%, le ferro-naval, 8% du CA France, la défense et sécurité, 7%, la plupart étant en croissance de 10% ou plus. À l'international, l'activité est également en forte croissance dans la plupart des zones géographiques. Seule l'Allemagne et la Scandinavie, zones où l'automobile et l'aéronautique civile sont prépondérants, sont encore en deçà de leur niveau d'avant-crise. En Amérique du Nord, aux États-Unis, qui représente 80% de la zone nord-américaine, l'activité croît d'environ 14%, a retrouvé son niveau d'avant-crise, y compris dans l'auto, qui représente 20% du CA local, malgré le recul, moins net mais toujours persistant, de l'oil and gas cette année. Au Canada, à peu près 20% de la zone nord-américaine, la croissance atteint 34% grâce au secteur finance tertiaire, qui représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires local, télécom, 17% du CA local, et life science, 10% du CA local. En Allemagne, la reprise de l'activité s'est accélérée tout au long de l'année, notamment au dernier trimestre, plus 32% comme vous pouvez le voir sur les documents qui vous ont été communiqués, ou vous avez probablement téléchargé, grâce au secteur automobile et aéronautique, fortement touché pendant la crise, mais qui ont réinvesti plus massivement en fin d'année. La croissance organique atteint donc 8% sur l'année, mais reste encore près de 10% inférieure à la situation pré-Covid. L'aéronautique, 18% du chiffre d'affaires, est encore en retrait de 35%, alors que l'auto, 46% du CA, n'est plus qu'à 8% de son niveau d'avant-crise. Les secteurs de diversification, finance tertiaire, dorénavant 10% du chiffre d'affaires allemand, hautes industries, 7% du CA, sont eux en très forte hausse. En Espagne, l'activité croît de 9%, le rythme de reprise étant accéléré au second semestre et le niveau d'activité pré-Covid est maintenant bien dépassé. Tous les secteurs sont en croissance, en particulier ceux de la défense, sécurité, énergie, autres industries et aérospatiales. En Italie, la croissance se maintient à 30%, alors même que l'activité avait déjà cru de 12% pendant la crise en 2020. Tous les secteurs sont en forte croissance, les plus fortes progressions étant dans l'automobile, 50% de croissance sur les comptes Stellantis italiens, ce qui n'est malheureusement pas le cas en France, automobile qui représente 20% du chiffre d'affaires italien, 37% de croissance dans les activités défense et sécurité, et 75% de croissance dans les autres industries. Dans la zone Asie-Pacifique, le rythme de croissance s'est également accéléré tout au long de l'année, la progression atteignant 31%. La zone qui avait enregistré une croissance en 2020, malgré la crise, de 6,5%, a environ progressé de 40% par rapport à son niveau d'avant-crise. L'Inde, qui représente 30% de la zone APAC, la Chine, 20% de la zone APAC, sont en croissance de près de 20%, tirés par les comptes automobiles. Le Japon, 15% de la zone, est en croissance de plus de 45%, grâce notamment à une très forte pénétration du secteur finance tertiaire. En Scandinavie, à contrario, l'activité est en très légère croissance, comme vous avez pu le voir, le rythme de croissance ayant paradoxalement ralenti au dernier trimestre. La Finlande, qui représente 22% de la zone scandinave, a progressé de 6% seulement, grâce au secteur des biens d'équipement industriels, qui représente les trois quarts de l'activité locale. En Suède, l'activité ne recule plus que de 0,5%, mais la reprise a marqué le pas dans tous les secteurs. Très pénalisée par les secteurs auto et poids lourds, qui représentent encore 40% du CA local, l'activité avait reculé, je vous rappelle, de 23% en 2020, et s'est en fait stabilisée depuis. Donc reste en retrait d'environ 22% par rapport au niveau d'avant-crise. Au Benelux, la croissance est accélérée également. Elle a atteint 16% au dernier trimestre et l'activité est donc en croissance de 10% sur l'année 2021. La Belgique a cru de 7%. À l'exception du secteur tertiaire en légère décroissance, tous les secteurs importants sont en croissance, notamment la pharmacie, qui représente en Belgique plus de 41% du chiffre d'affaires local, activité en croissance de plus de 20%. Aux Pays-Bas, l'activité est en très forte progression au deuxième semestre, de 12,5% au total sur l'année, grâce aux comptes électroniques et semi-conducteurs, qui représentent un gros tiers du chiffre d'affaires néerlandais. Au UK, l'activité a fortement rebondi. Vous voyez que le taux de progression organique est de 26%. Notre niveau d'avant-crise a été dépassé d'environ 15% à la fin de l'année 2021. L'activité a très fortement rebondi dans le secteur automobile, même si on est toujours très légèrement en deçà de fin 2019, et également dans le secteur aéronautique, où là, on a largement dépassé le niveau d'avant-crise. La Suisse, qui a été peu impactée par la crise, a vu son activité fortement progresser tout au long de l'année pour atteindre 24% sur le Q4 et 12% sur l'année, grâce aux comptes pharmacie et finances tertiaires. Enfin, l'Europe de l'Est a très fortement progressé grâce à la Pologne, qui représente 60% de la zone et qui a cru de 65% grâce aux comptes auto et finances tertiaires. La Roumanie, pour le solde, a cru de 15% grâce aux activités dans les mêmes secteurs. En synthèse donc, le rebond de l'activité que l'on avait constaté au deuxième trimestre, s'est accéléré au troisième et a été confirmé par la vigueur de l'activité du quatrième trimestre. Tous les secteurs d'activité ont donc dépassé ce trimestre leur niveau d'avant-crise, à l'exception de l'automobile poids lourd et de l'aéronautique civile, pourtant en rebond sensible. Alors, l'automobile, si on regarde l'activité par secteur par vertical, par secteur d'activité, justement. L'automobile représente maintenant 16,2% du chiffre d'affaires d'Alten, une activité qui avait commencé à rebondir au second trimestre, rebond qui s'est confirmé au troisième et quatrième trimestre. Une activité donc en croissance sur l'année de 8,3%, mais encore de 12% en deçà de la situation d'avant-crise au niveau du groupe. Comme vous l'avez compris, le rebond de l'activité est assez hétérogène selon les zones géographiques. Si on regarde la situation par client, chez les constructeurs, la situation est assez contrastée. Stellantis France, Renault, JLR et Daimler sont toujours en net recul, alors que la plupart des constructeurs allemands, italiens, US et chinois sont en forte hausse. Au global, les constructeurs qui représentent 66% du secteur automobile sont stables, certains plus compensant certains moins, tandis que les équipementiers sont en forte progression de l'ordre de 30%. Le ferro-naval, 4,4% du chiffre d'affaires, croît de 11,5%. Et la croissance est réalisée majoritairement dans le secteur naval, grâce à un fort développement de l'activité avec le compte Naval Group et Navantia. Notre niveau d'avant-Covid est également dépassé de 10%. L'aérospace, 11,6% du chiffre d'affaires, progresse de 17%. Le rebond de l'activité dans le spatial, qui ne représente que 2,2% du chiffre d'affaires, est plus vigoureux qu'anticipé, puisque la croissance est supérieure à 20%. Dans l'aéronautique civile, la reprise de l'activité que nous avions constatée dès le troisième trimestre cette année s'est confirmée au quatrième. Elle est intervenue plus tôt et plus précocement qu'anticipé. Notre croissance dans le secteur aéronautique civile a tangenté les 100% sur le deuxième semestre. Un rebond franchement vigoureux et inattendu. Sur l'année, l'activité croît donc de 16% et a comblé une part importante du recul sans précédent de 2020, puisque je vous rappelle qu'on avait fait moins 45%. Nous n'avons malheureusement pas encore retrouvé le niveau d'avant-crise, mais nous n'en sommes pas loin, si je puis dire, puisque l'activité aérospatiale n'est plus que 13% en deçà de son niveau d'avant-crise. Les activités défense et sécurité, qui représentent 5% du chiffre d'affaires, sont en croissance de 20% et ont également dépassé leur niveau d'avant-crise. L'énergie, quasiment 11% du chiffre d'affaires, progresse de 9,1%, a légèrement dépassé le niveau d'avant-crise, mais selon les sous-secteurs, la situation est différente. L'oil and gas, qui représente 4,8% du chiffre d'affaires, n'est qu'en faible hausse, très légèrement supérieure à 1%. Pourtant, la demande augmente, les prix également, et le sous-investissement chronique dans ce secteur depuis plusieurs années devrait faire qu'un retournement de tendance devrait normalement et logiquement intervenir cette année. Le nucléaire, 2,7% du chiffre d'affaires, continue à croître d'environ 10%. Comme vous le savez, les tendances sont très favorables dans ce secteur d'activité. Le domaine des équipements pour l'énergie, 2,7% du chiffre d'affaires, a accéléré fortement son rythme de croissance, qui a maintenant dépassé les 25%, notamment grâce aux investissements réalisés dans les équipements pour les énergies renouvelables. Les sciences de la vie, 9,5% du chiffre d'affaires, sont en croissance assez sensible de 15% grâce à la pharmacie, alors que le secteur des équipements médicaux croît, mais plus légèrement. Le secteur des autres industries, essentiellement industrie de biens d'équipement et de biens de transformation, qui représente près de 6% du chiffre d'affaires, a progressé de 22% cette année et se retrouve maintenant à un niveau bien supérieur à celui de fin 2019. Les télécoms, 5,6% du CA, sont en légère croissance d'environ 3%. Une activité globalement stable chez les opérateurs, qui représente 4%, et en croissance de près de 10% chez les équipementiers, qui représente 1,6%. Notre activité est quasiment revenue à son niveau d'avant-Covid, mais le rebond, probablement le seul secteur, les télécoms, où le rebond est assez décevant. L'activité électronique, médias, semi-conducteurs a progressé de 16%, grâce évidemment à une très forte augmentation de l'activité dans le secteur des semis. Enfin, le secteur finance tertiaire, qui représente un petit quart du chiffre d'affaires, est en hausse de 13,5%, une activité qui progresse dans la banque finance assurance, aussi bien que dans le retail et dans les services. Notre niveau d'avant-crise est aussi largement dépassé. En synthèse donc, hormis l'auto et l'aérocivil, tous les secteurs d'activité ont retrouvé un niveau d'activité équivalent ou bien supérieur à celui d'avant-crise, ce qui fait qu'il existe encore des perspectives de rattrapage significatives dans les deux secteurs qui restent encore en deçà du niveau de fin 2019, ce qui peut laisser augurer une croissance potentielle intéressante pour 2022, 2023 et les années à venir. Côté acquisition, nous avions donc annoncé lors de la dernière publication les 6 acquisitions réalisées en 2021 en France et à l'international, je ne vais donc pas y revenir. En début 2022, nous avons finalisé et acquis une société en Espagne, positionnée dans l'IT, sur les activités cloud et transformation digitale. Une société qui a réalisé, qui devrait réaliser sur 2021 un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros et une rentabilité d'environ 8%. Voilà, donc 2022 s'annonce plutôt sous de bons auspices. L'année 2021, contre toute attente, s'est avérée une très bonne année. Une activité qui a rebondi plus vite et plus fortement qu'anticipée. Une crise sanitaire globalement effacée, même si trois pays sont encore un peu en deçà de leur niveau de fin 2019. Quatrième trimestre qui est resté dynamique, plus que ce que nous pensions. Janvier a bien débuté. Notre croissance embarquée, croissance organique embarquée, est de 7% cette année, donc plus élevée qu'à l'habitude, ce qui devrait laisser espérer une nouvelle année de croissance satisfaisante pour 2022, sauf si les conditions sanitaires, évidemment, macroéconomiques ou géopolitiques, viennent contrarier la tendance. Voilà, je vais laisser la parole aux participants. Monsieur, si vous voulez bien ouvrir la conférence pour que chacun puisse poser les questions qu'il souhaite.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. S'il vous plaît, assurez-vous que votre ligne ne soit pas en mode silence. Je vais vous alerter quand vous pouvez poser votre question. La première question vient de la ligne de Emmanuel Matteau de Odo.
Oui, bonsoir monsieur. J'espère que vous m'entendez.
Bonsoir. Oui, oui.
Merci pour cette conférence téléphonique. Une fin d'année donc meilleure que prévue. Je voulais vous entendre un petit peu sur sur le sujet du de l'inflation. Comment opère Alten historiquement dans un contexte inflationniste et quelle est votre capacité à augmenter les prix de vos contrats auprès des clients. Et je voulais également vous interroger sur votre capacité à recruter dans l'environnement actuel hein, de baisse du chômage et d'inflation des salaires. Est-ce que j'avais noté que vous aviez un objectif de 42 000 ingénieurs en 2022. J'avais compris que ça serait largement atteint. Est-ce que vous êtes toujours confiant sur ce sujet? Merci.
Alors, on n'est pas habitué à travailler dans un environnement inflationniste, hein, puisque ça fait quand même plusieurs années, voire décennies, que la France, l'Europe et le monde fonctionnent dans un environnement à inflation extrêmement faible. Maintenant, il va falloir qu'on s'adapte et on verra si ce cycle de reprise de l'inflation est durable ou pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a effectivement une forte tension au recrutement en France, mais on peut dire de façon générale, dans l'ensemble des pays où on opère. Les compétences, notamment dans les domaines d'activité où on intervient, sont effectivement très demandées. On aurait pu réaliser une performance meilleure, effectivement, si on avait pu recruter autant que nous l'aurions souhaité, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est extrêmement sollicité en termes d'appel d'offres. On a quand même réalisé une performance en recrutement qui est quand même significative, puisqu'on recrute à peu près 1400 à 1450 ingénieurs en net par trimestre. Je crois que la meilleure performance qu'on ait jamais réalisée dans le passé, c'était 2000 sur un trimestre. Ce qui veut dire qu'on conserve une capacité d'attraction et on continue à avoir une capacité de recrutement réelle. Ça doit se faire évidemment dans un contexte où il y a une tension sur les salaires, puisque effectivement les ingénieurs aujourd'hui réclament des hausses de salaire ou réclament des salaires en embauche qui sont plus élevés que ce que nous avions il y a un an ou deux ans. On en tient compte, donc nos grilles de rémunération dans les faits ont ou vont progresser de l'ordre, je pense, de 2 à 3 %. Ce qui reste encore assez mesuré. Côté tarifs, on essaye de négocier des hausses, évidemment, avec l'ensemble de nos clients. Et là, la situation est assez hétérogène, parce que selon les pays et ou selon les industries, les réactions des clients sont finalement assez diverses. qu'on peut dire globalement, c'est que on devrait réussir à passer dans les tarifs l'essentiel des hausses de salaire, en espérant qu'ils ne dérapent pas trop, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, parce qu'en fait, on n'assiste pas chez nos grands concurrents à une surenchère salariale. Alors vous avez, au recrutement, vous avez trois types de concurrents. Vous avez nos clients, qui probablement sont les plus difficiles sur le plan de la concurrence salariale, puisque eux n'hésitent pas à donner des augmentations de salaire ou à réévaluer leur grille de l'ordre de 5%, ce que nous, on ne peut pas faire, parce qu'on a des tarifs qui sont une contrainte. Nos concurrents, qui sont obligés de tenir compte du marché, mais qui ne se livrent pas à une inflation, à une surenchère salariale, pour les mêmes raisons que nous, donc ça, c'est assez maîtrisé. Et l'écosystème des startups ou des fintechs, etc., où là, les rémunérations sont hors sol et où c'est clair que on peut pas se battre contre des niveaux de rémunération qui sont 20 à 30% au-dessus des nôtres. Ouais. Heureusement, ça représente pas le gros des recrutements. Et donc, on arrive à tirer notre épingle du jeu grâce à la nature des projets qu'on propose et aux perspectives d'évolution. Donc, je vous disais, côté client, on arrive à passer des hausses, ou on va réussir, parce que les négos sont en cours, je pense, à passer des hausses de tarifs pour compenser une grande partie de l'inflation salariale. Il y a un secteur d'activité où c'est plus compliqué, c'est l'automobile, et un pays où c'est plus compliqué, pour passer les hausses, c'est la France, mais pas dans tous les secteurs, plutôt dans l'industrie et spécifiquement quand même dans l'automobile. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis pas en mesure de vous dire quel sera le résultat des évolutions mixtes. Ça, en fait, on pourra le voir et le constater, je pense, qu'à posteriori, je pense à la fin du premier semestre. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde est mobilisé sur la maîtrise des marges, évidemment, pour que le ratio prix-salaire et donc les fondamentaux de la marge brute ne se détériorent pas en 2022, en sachant quand même qu'ils se sont significativement améliorés en 2021. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Ouais, c'est très complet, c'est très rassurant. Et sur votre capacité à atteindre votre objectif de 42 000 ingénieurs, c'est quelque chose qui reste d'actualité dans le contexte de tension sur...
Oui, on est 40 000 au 1er janvier. En fait, on est déjà au-dessus aujourd'hui du fait des recrutements de janvier. Donc, entre les acquisitions qui interviendront et les recrutements, on dépassera, sauf à ce qu'il y ait une catastrophe économique ou d'autres natures, on dépassera les 42 000 en fin d'année 2022.
Et quand vous parlez de croissance embarquée, ça intègre également la croissance externe, en fait, que vous avez déjà réalisée.
C'est la croissance externe, c'est pas dedans, ça n'intègre que la croissance organique qui serait mécaniquement réalisée, justement, à périmètre constant.
D'accord, ok, c'est clair. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
La prochaine question vient de la ligne de Emmanuel Parot, de Gilbert Dupont.
Oui, bonsoir Bruno, si tu m'entends bien.
Bonsoir.
Petite précision sur la croissance embarquée. Est-ce que tu as intégré dedans la croissance, une croissance embarquée des prix, ou c'est qu'un effet volume? C'était ma première question. Et ma deuxième, c'était sur la marge du S2 2021. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit update? Bon, le dernier discours, c'était en séquentiel, au moins le niveau du S1, mais on comprend que ta marge brute est bon, l'atterrissage chiffre d'affaires est bon. Donc, si tu peux nous faire un petit commentaire là-dessus, ce sera appréciable. Merci.
Alors, concernant la croissance embarquée, c'est une très bonne question. Il n'y a aucun effet prix dedans. C'est uniquement du volume.
Ok.
Comme je ne peux pas préjuger de ce que seront les prix, on raisonne à prix constant. Voilà, on raisonne à prix constant et à taux d'activité stable versus le Q, enfin le dernier semestre, c'est-à-dire le S2. Voilà, ce qui peut induire peut-être un léger biais du fait qu'il est légèrement supérieur au normatif. Enfin, c'est pas très significatif. Concernant la marge S2 2021, effectivement, je vous avais indiqué qu'elle serait au moins supérieure à celle du S1. Je crois que lors du dernier call, vous avez dit qu'elle serait franchement supérieure à celle du S1. Et donc, on avait parlé forcément sur l'année d'une marge à deux chiffres. Tu as raison de souligner deux choses. La première, c'est que on a un niveau d'activité qui est meilleur que celui qu'on anticipait. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, ça a fait des volumes de chiffre d'affaires qui génèrent, j'allais dire, quasi directement de la marge. Ensuite, on avait anticipé et budgété au second semestre un certain nombre, je dirais, de dépenses d'investissement pas pour faire face à la croissance. Les dépenses n'ont pas été toutes réalisées parce qu'il est compliqué de recruter, pas simplement des ingénieurs, mais dans tous les métiers, parce qu'on a un certain nombre de projets en cours qui ont un peu dérapé dans le temps, etc. Bon, tout ça pour dire que finalement notre ratio de SG&A sur S2, il est optimisé. Donc là, c'est pas un call sur la marge, donc je vais pas aller loin dans l'analyse de la marge et dans la communication, mais il est sûr que S2 sera nettement supérieur à S1.
Ok. Et peut-être un dernier point pendant que j'y pense sur le. Enfin, j'avais souvenir qu'en termes de croissance externe, vous aviez pas mal de choses dans le pipe. Finalement, sur le T4, il y en a entre guillemets qu'une seule qui se concrétise. Est-ce qu'on pourrait voir une accélération des opérations sur le S1?
Au T4, on en a fait deux quand même, et pas deux petites. Parce qu'au total, ça fait quand même 3200 personnes, dont 88% sont des ingés. C'est quand même. Ce sont deux acquisitions significatives. Ensuite, on vient d'en closer une autre en Espagne. Bon, c'est sûr que c'est plus modeste, hein, 180 personnes, 12 millions d'euros de CA. Et dans le pipe, on a aujourd'hui 6 sociétés en due deal. Alors, je ne sais pas si elles seront toutes closées, si on ira au bout de tous les processus sur S1, mais normalement, si tout va bien, ça devrait être le cas.
Okay. Ok, très clair. Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonne soirée.
La prochaine question vient de la ligne de Grégory Ramirez de Brian Garnier. Monsieur, c'est ça.
Oui, bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Désolé de te poser ces questions-là, mais en fait, j'ai eu des petits problèmes de connexion au début du call, donc j'ai raté. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur le taux d'utilisation qu'il y avait sur le T4, ainsi que le niveau de net staff hiring et donc le niveau d'effectif au 31 décembre, incluant au total et avec les ingénieurs?
Aucun problème. Donc, le taux d'activité du Q4 était de 92,7, qui nous met à 92,8 sur S2 et à 91,5 sur l'année. Voilà, les effectifs groupes, on a fait plus 8500, dont 7750 ingés. Q4, spécifiquement en ingénieur, on a un net staff hiring de 1400 personnes, qui fait qu'au global sur l'année, la croissance des effectifs ingénieurs organiques, c'est 4993 personnes.
Pardon,
2793. et on en a 2757 par acquisition, ce qui fait les 7750. Voilà, et au global, on était 42 300 fin décembre 2021, dont 37 150 1G, auxquels il faut rajouter les deux acquisitions qu'on a réalisées fin d'année et qui sont donc, en fait, qui sont consolidées en bilanciellement au 31 décembre et en flux PNL à compter du 1er janvier. Et qui font au total 3200 personnes. Et ce qui porte les effectifs groupes en fait au 1er janvier à 45 500 et à 40 000 ingénieurs au total.
D'accord, très bien.
Voilà.
Parfait, donc, sinon, donc, tu parles de taux d'utilisation qui, effectivement, reste dans des niveaux historiquement élevés. Tu évoques le fait que, pour l'instant, c'est pas prêt de... Bien, malgré tout, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans l'année, il y aura peut-être, en fonction du niveau des embauches, des taux d'utilisation qui pourraient être, disons, un petit peu plus bas?
Ben, je dirais c'est presque à souhaiter parce que en réalité on a des zones où on a des taux d'activité qui dépassent les 95%, ce qui témoigne clairement de difficultés de recrutement, parce que l'objectif, comme toutes les zones géographiques augmentent leur activité en plus en work package, ce qui nécessite d'avoir un peu plus de disponibilité. Avoir 95 ou 96, ça veut clairement dire qu'il manque du monde. Donc, il faudrait qu'on redescende aux alentours de 91-92. Pour l'instant, c'est pas le cas hein, sur janvier. Alors, on a toujours en janvier des taux d'activité plus faibles parce que dans certains pays, renouvellement des commandes, démarrage de projets tardifs, etc. Mais quand je dis c'est pas le cas, c'est que si je regarde le taux d'activité de janvier estimé avec les taux d'activité historiques de janvier, on est encore à peu près un point au-dessus du normatif. Mais j'espère que ça va se lisser dans l'année.
De la ligne de Alexandre Pleu de Kick Securities.
Oui, bonjour, vous m'entendez, Bruno?
Très bien, très bien.
Super. Bien, bonjour déjà, bravo, hein, super publi. J'ai quelques questions de mon côté. Aujourd'hui, je voulais poser un petit peu la question quand tu parlais de la Pologne, etc. La part sur les, on va dire, les 40 000 ingénieurs, combien sont dans des bassins offshore, nearshore maintenant, à peu près? C'est une première question. Une deuxième question, c'était aujourd'hui, si on prend un petit peu. Les agrégats historiques, c'est-à-dire 70-30 R&D IT, aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours sur ces agrégats ou avec les acquisitions qui sont très tournées vers l'informatique ou le digital, on appelle ça comme on veut, et les efforts de recrutement tournés vers ça, est-ce qu'on a beaucoup plus rééquilibré ces sujets-là? Ça, c'est une deuxième question. Et une troisième question, est-ce qu'avec une telle croissance, on peut s'attendre à des effets sur le BFR où il sera sous contrôle lui aussi?
Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, les ingés qu'on a en Pologne travaillent pour le marché local et ne sont pas à 100 personnes près des ingénieurs qui travaillent pour l'Allemagne, parce que c'est souvent le cas pour les boîtes en Pologne. Cela dit, on a à fin 2021 à peu près aujourd'hui 3300 personnes qui sont sur des bases X-Shore, Near-Shore, entre l'Inde, où aujourd'hui on en a à peu près 1750 à 2000, enfin ça dépend des mois, ça fluctue, 250 en Chine, qui travaille d'ailleurs majoritairement pour le Japon, pas loin de 1000 au Maroc, et 400 en Roumanie. On a acquis deux sociétés, qui vont rajouter à peu près 2000 personnes aux effectifs offshore, puisqu'elles sont situées en Chine et en Inde, et elles travaillent majoritairement pour les marchés locaux, mais aussi en ODC pour des clients américains.
Ça fait 5300, du coup, 3300 plus ces 2000 embarqués,
ouais.
C'est bien ça? Ok.
Ouais, c'est ça, ça fait 5500 à peu près.
Ok.
Voilà. Et alors ensuite, la question suivante, c'était, pardon...
Non, bien sûr, pas de problème. La deuxième question, c'était sur la répartition des métiers aujourd'hui entre l'IT pure et la R&D.
Pour l'instant, même si on a fait un certain nombre d'acquisitions dans le domaine de l'IT, les deux dernières là, qu'on vient de réaliser sont 100% ingénierie. Ça n'a pas modifié de façon notable le mix d'activité entre la partie IT et la partie ingénierie.
Ok. Du coup, tu veux que je te rappelle la troisième question qui était sur les effets BFR
Alors, les effets BFR, on a un BFR qui est resté maîtrisé malgré la croissance en 2021. Et en fait, c'est pas le fait de faire des acquisitions, c'est la croissance organique qui génère du BFR. Il pourra y avoir peut-être un petit effet BFR en 2022, mais vous verrez les chiffres de cash à la fin du mois, du mois de février, quand on va publier. On a quand même un BFR qui est vraiment sous contrôle. Maintenant, à partir du moment où on sait qu'on a un DSO qui fait en moyenne dans le groupe 90 jours, enfin on est un peu en dessous, mécaniquement, toute augmentation de chiffre d'affaires implique une augmentation du BFR à due concurrence.
Oui. Ok, ben parfait, merci beaucoup.
La prochaine question va venir de Laurent Doré de Kepler Cheuvreux.
Oui, allô? Oui, bonsoir
oui.
Bruno.
Bonsoir Laurent.
J'avais plusieurs questions. J'aimerais que tu nous refasses un petit point sur l'attrition. C'est qu'en fin d'année, début d'année, tu as souvent pas mal de départs. Alors, je sais que tu peux pas avoir une visibilité précise sur les recrutements 22, mais si on se projette uniquement sur les deux prochains trimestres, est-ce que l'objectif interne, c'est de continuer à recruter à peu près 1400, 1500 ingénieurs en organique tous les trimestres? Et est-ce que tu as un peu de changement de taux d'attrition ou tu restes toujours aux alentours de 25? Et après, j'aurai des follow-up. Je vais déjà répondre au premier point.
En fait, on n'a pas d'objectif chiffré de recrutement en réalité, puisque ça dépend vraiment des projets. Donc, en fait, on colle au projet qu'on gagne avec une stratégie qui consiste toujours à avoir, pardon l'expression, mais un buffer d'ingénieurs suffisant pour faire face à la croissance. Donc, on a augmenté nos moyens, on a réaugmenté fortement nos moyens dédiés au recrutement des ingénieurs. Qu'on avait évidemment en 2020 fortement réduit, pour être en capacité de recruter en net au moins 1500 personnes par trimestre. Ensuite, ça dépend de l'activité commerciale, parce que pour l'instant, elle est soutenue, le portefeuille d'appel d'offres est rempli, donc on est toujours sur une dynamique de recrutement élevée.
Et au niveau des départs, ça bouge ou c'est toujours des taux flat?
On est à 27 aujourd'hui. 27% à peu près.
D'accord. Et alors justement, grâce à cette dynamique, que tu évoquais des hausses dans les grilles de 2 à 3% pour 2022, aujourd'hui, ta population d'ingénieurs, tu la maintiens à un niveau d'âge équivalent ou tu arrives à la rajeunir? Est-ce que tu bouges un peu plus légèrement vers l'offshore, ce qui te permet de regagner un petit peu sur ta grille? Comment tu maîtrises un petit peu ces paramètres?
La population est en train de se rajeunir. Elle avait légèrement vieilli du fait de la baisse du turnover et surtout de l'arrêt des recrutements en 2020. Donc, elle avait pris un peu moins d'un an en moyenne, mais ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc, on avait dû passer le cap des 30 ans. Là, elle se rajeunit à nouveau parce que le turnover est reparti à la hausse et puis parce que les recrues sont plus jeunes. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta première question. Ensuite, sur la partie maîtrise des rémunérations et des coûts surtout, en fait, l'augmentation de la part offshore est essentiellement due, en fait, à des exigences clients, essentiellement français, qui souhaitent baisser fortement leur coût de revient de R&D et d'ingénierie. Donc, quand c'est possible, il y a des projets qui en partie sont transférés au Maroc ou même en Inde aujourd'hui, parce que les coûts sont plus faibles. Mais ça a une incidence sur, j'allais dire, le salaire moyen, et ça se voit aussi en mix dans le prix de vente moyen, parce que de toute façon, contrairement à l'IT, ou aux éditions logicielles, l'ingénierie n'est pas un secteur d'activité où l'offshore permet d'améliorer fortement les marges, puisque en réalité, les clients en captent une très grande partie. Donc, facialement, le fait d'avoir plus de salariés en offshore sur des projets, et encore, c'est pas si sensible que ça chez nous, va faire baisser le salaire moyen, mais symétriquement, ça fait baisser aussi le prix de vente moyen.
Ok. Alors après, j'avais une question. Je sais que c'est pas une publication de résultats. J'aimerais en parler de façon un peu plus structurelle. Parce qu'on a bien compris que son atterrissage 2021 va être assez flatteur. Mais d'un point de vue plus structurel, indépendamment du fait que tu as un petit peu investi avec un léger retard par rapport à la vigueur de la reprise, est-ce que tu penses qu'il y a des éléments par rapport à des savings que tu aurais pu faire pendant la crise qui pourraient permettre, je me projette à horizon 2-3 ans, non pas d'avoir des marges qui tournent autour de 10, on va dire 10, 10-1, 10-2, et est-ce qu'on peut avoir l'ambition peut-être de retrouver des marges plutôt à 11 de façon durable? Est-ce qu'il y a quelque chose de structurel qui a changé, tu penses?
Aujourd'hui, vraiment, je ne m'engagerai pas là-dessus parce que je ne considère pas qu'il y ait des choses structurelles qui aient changé. Alors, ce qui a changé, c'est la répartition du mix géographique et sectoriel, mais il va continuer à bouger parce que l'auto est en train de remonter fort, et l'auto, c'est un secteur d'activité où les marges sont plutôt plus faibles qu'ailleurs. Donc, d'un côté, ça va mettre de la croissance, et de l'autre côté, ça va avoir un effet plutôt défavorable sur le mix marge. Et après, il y a l'effet zone géographique. La France a baissé proportionnellement. Il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, où le niveau de rentabilité est très élevé, ou le Benelux, qui sont montés, donc qui contribuent plus positivement au mix de résultats. Je considère pas, et on a effectivement aujourd'hui plutôt réduit nos SG&A, mais qui vont remonter. Donc, tant que, je dirais, on est toujours pas dans une situation stabilisée, entre guillemets. Donc, je préfère attendre, je dirais, une année au moins pour répondre à la question. Aujourd'hui, a priori, ma réponse est non. C'est-à-dire, je vois pas comment on peut durablement envisager de monter nos marges à 11 points ou de façon récurrente. D'autant qu'il y a le vrai sujet sur l'évolution des salaires et des prix, qui pour l'instant est quand même question mark. On verra comment ça va se passer en 2022. Et au-delà, parce qu'il y a un vrai sujet, il peut y avoir un vrai sujet sur l'inflation. Et nos clients sont pas hyper enclins, certains plus que d'autres, à accepter des hausses de tarifs significatives. Mais ça fait quand même beaucoup de facteurs d'incertitude qui font que le rang objectivement, on ne peut pas répondre.
D'accord, mais déjà, la logique, c'est d'aller déjà, vers peut-être une marge 22 qui serait moins bonne que 21.
Bah, la logique
est vraiment très bon.
21 sera une bonne année, on sera au-dessus des 10. Hein. Ça, c'est. Ce qui veut pas dire qu'on sera à 12, hein. Faut pas interpréter mal ce que je dis. Hein. Mais on sera au-dessus, de 10, ça c'est sûr. La logique voudrait que 22 redescende. Ce qui veut pas dire qu'on sera à 9 non plus. Hein.
Non, j'ai bien compris.
Quand je dis au-dessus de 10, enfin, on parle en bips, hein, on parle pas en point de chiffre d'affaires.
Oui, tout à fait. Okay. Et le dernier point, c'est si tu pouvais nous faire un point sur les 2-3 acquisitions que tu as réalisées ces 12 derniers mois, dans les plus grosses, les surprises que tu as eues dans un sens ou dans l'autre, et aussi si tu n'en as pas été amené, de 6 sociétés, on parle de petites sociétés ou tu en as une ou deux de taille significative.
Il y en a une qui est au-dessus de 500 personnes, et les autres sont de taille habituelle.
Et sur les dernières, les dizaines de dernières, en général, tu as plutôt eu des bonnes surprises grâce à la dynamique de marché ou tu as eu,
ouais,
t'en as eu
ouais.
une ou deux qui ont déçu?
Non.
C'est carton plein, quoi.
Aucune n'a déçu et c'est même, je dirais même que on a eu des bonnes surprises. C'est-à-dire que il y a des sociétés pour lesquelles on a réussi, enfin la marche s'est adressée plus vite que ce qu'on pensait.
Ok, super, merci, c'est très complet. Bonne soirée Bruno.
Merci, bonne soirée Laurent.
La prochaine question vient de l'ordre d'Éric Mercon de Société Générale.
Salut Bruno, je vais pas te prendre beaucoup de temps, bon, j'ai juste une petite question. La première, c'est est-ce que tu peux nous faire un update sur les séjours en France et à l'international pour 2022? Et puis je te poserai les autres à la suite.
Alors, oui et non, en fait, parce que, alors, au total, on a un jour de moins sur 2022, mais je sais plus sur quel semestre. Mais il n'y a qu'un jour de moins au niveau groupe.
Et c'est même chose France-international, je crois, non, à peu près?
Ouais, à peu près, ouais.
Ok. La deuxième, c'était sur le... Donc, c'est un peu dans le prolongement de la hausse du staff attrition, mais quand tu dis 27%, donc c'est tu compares le 27 à ce qui s'est passé en 2021, et effectivement, tous les trimestres, tu disais que ça augmentait. Mais quand tu regardes, en fait, le nombre de départs que tu as eu entre le 31 décembre et le 1er janvier, donc les démissions classiques que tu as à ces périodes, deux fois dans l'année, est-ce que tu as remarqué des choses différentes par rapport aux années précédentes? Est-ce que, finalement, le taux de démission a été moins élevé? Enfin, ça a été une bonne surprise parce qu'il était moins élevé, ou finalement, c'était à peu près comme vous l'attendiez?
C'était comme on l'attendait. La seule année où on en a eu moins qu'à d'habitude, bah, évidemment, c'est janvier 2021, hein, parce que, voilà, encore qu'on en a eu... Et cette année, on a retrouvé des rythmes de démission normaux.
D'accord. Ma troisième question, c'était sur la France. Il y a une réaccélération assez forte de notre staff hiring sur le Q4. Est-ce que, à travers ça, il faut lire une confiance vraiment marquée sur l'outlook 2022 pour la France? Ou est-ce qu'il y a encore des zones d'incertitude et finalement, c'est plus confort sur... des pays qui ont déjà bien marché en 2021 et qui devraient poursuivre leur taux de croissance en 2022, ou tu considères que la France aujourd'hui est vraiment lancée et fera une année 2022 de bonne qualité?
En fait, la réponse... alors déjà la France, comme l'Allemagne d'ailleurs, hein, parce que c'est assez parallèle l'évolution des deux pays, et dans une moindre mesure, je dirais, la Suède, et pour les mêmes raisons, a eu, si tu me passes l'expression, du retard à l'allumage, parce qu'il a fallu commencer par gérer les problématiques d'intercontrat et absorber les intercontrats de début d'année, qui ont quand même perduré jusque... aujourd'hui, ça paraît loin, mais ça a quand même perduré jusqu'au mois d'avril-mai. Je rappelle quand même qu'en 2021, on a quand même maintenu du chômage partiel au Q1, et il est mort tout doucement au cours du deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre. essentiellement évidemment France-Allemagne. Donc une fois qu'on est revenu à une configuration normale, c'est-à-dire des ressources en adéquation avec les deux nombres de projets, on a pu reprendre une dynamique de recrutement, étant entendu que en France, le secteur auto, notamment chez les constructeurs, n'est pas reparti, ou quasiment pas. Il y a eu une étincelle, avec des demandes pour l'auto en France, de projets à étudier de taille plutôt plus importante que d'habitude, mais plutôt sur l'offshore ou le nearshore. Donc une volonté très claire de baisser les coûts d'ingénierie. Maintenant, c'est pas un scoop non plus, hein, il suffit de prendre les échos et de lire pour comprendre les objectifs des constructeurs français. Donc, dans ce secteur-là, on a apuré complètement l'intercontrat, mais l'activité dans l'auto est pas repartie. Où l'activité est repartie fortement, c'est dans l'aéronautique. Il y a d'ailleurs été l'explication de la reprise des recrutements de façon plus vigoureuse, parce que c'est là où les volumes ont été sur les projets gagnés ont été importants sur Q3 Q4. Donc pour 2022 en France, la dynamique, on a quand même fait 17 hein, au Q4 en croissance organique, donc la dynamique est bonne. Puisque maintenant on n'a plus de problématiques d'intercontrat à gérer, etc. Et la France reviendra sur des niveaux de croissance normatifs, plus qu'à celui du groupe, pour 2022, si l'auto repart.
Mais tu ne penses pas que la France, compte tenu quand même de l'effet de base et de ce retard à l'allumage, si tu avais quand même fait moins 20 en 2020, donc certes tu finis fort 2021, mais tu es sur un plus 8 sur 2021, tu ne penses pas que la logique serait, si on poursuit de tracer la ligne fin 2021 sur 2022, que la France va faire plus que 10% de croissance?
Ah bah, la France peut les faire, puisque de toute façon, la croissance embarquée en France, elle est au-dessus de 5%. Donc, oui, la France peut les faire, mais d'ailleurs, c'est encore une fois, elle peut même les faire. J'allais presque dire sans l'auto, parce que il y a d'autres secteurs d'activité qui tirent assez fort. Je pense qu'il y aura une reprise dans le LNG, vraiment. Le nucléaire, on a une explosion du nombre d'appels d'offres. Ça, c'est pour l'énergie. La pharmacie, c'est la même chose. L'aéronautique, on a beaucoup, beaucoup de sollicitations. En plus, on vient de gagner le référencement en premium chez Airbus, là. Donc, oui, la France peut le faire. Mais la dynamique de croissance en France sera d'autant plus forte que l'auto repartira en France pour des projets en France. Ouais. Parce qu'on est quand même toujours, on est toujours en France à 30% en dessous dans l'auto. Hein. C'est avec la Scandinavie, c'est les deux seuls pays où on est à peu près scotché sur des taux qui sont un peu meilleurs que le plus bas, mais pas beaucoup plus haut.
Très clair. Ouais, mais quand les chips reviendront, tu verras. Quand ils vendront plus de voitures, ils relanceront les projets. Et ma dernière question, c'était sur les deux dernières acquisitions fin 2021 qui seront consolidées dans le PNL à partir du 1er janvier. Le cash out, il faut le prendre sur 2021 ou 2022?
Non, 2021, elles seront bilanciellement consolidées sur 21, normalement. C'est-à-dire
donc,
que, comme on a dit...
On a sorti le cash pour ces deux-là.
Ouais, on a sorti le cash, donc on verra le goodwill, mais on verra pas de flux PNL.
Non, très clair. Top, merci beaucoup.
Merci, bon Eric. Bonne soirée.
Bonne soirée.
La prochaine question vient de la ligne de M. Axel Stas de Berenberg.
Oui, vous m'entendez?
Très bien.
Ah, bonjour Bruno. Félicitations pour vos résultats. Et merci de répondre à ma question. Je voulais en savoir plus longtemps parce que je sais que ce sont mes collègues qui ont déjà répondu à la question. Mais parmi les 6 acquisitions que vous avez dans le pipe pour le H1, est-ce que Alten s'est focalisé sur un secteur ou des pays en particulier? Vu le retard dans certains pays, justement, vous mentionniez il y a quelques minutes. Et deuxième question que j'ai, est-ce que vous vous focalisez sur ces acquisitions pour le H1? Est-ce qu'on peut assumer qu'on est nouveau sur 10 acquisitions pour 2022 en général?
On a ces 6 premières qui sont toutes à l'international, dans des zones géographiques qui sont diversifiées. Il n'y en a que 2 qui sont dans la même zone géographique, sur les 6, enfin dans le même pays, je veux dire. Et on a d'autres lettres d'intention en cours de signature, ou signées, mais pour lesquelles les due deals n'ont pas commencé, qui peuvent laisser penser qu'effectivement, si tout va bien et que les due deals ne révèlent pas de problèmes particuliers, on pourrait faire encore cette année pas loin de 10 acquisitions. Mais objectivement, c'est pas une target, hein. C'est-à-dire que les acquisitions, c'est comme ça vient. Il y a des acquisitions qu'on n'a pas faites cette année, alors qu'on avait signé des lettres d'intention et qu'on avait signé, on était quasiment à deux doigts de signer un SPA pour des questions de négociation de dernière minute ou des acquisitions qu'on n'a pas faites parce que les due deals se sont révélées très décevantes. Voilà. Donc, c'est opportuniste. Ce qui est clair, c'est que ça fait clairement partie de la stratégie de développement, même si la croissance organique reste toujours un pilier important du développement d'Alten. Les 10, c'est envisageable, mais c'est pas une certitude.
Ok, très clair. Merci Bruno.
Il n'y a plus de questions dans la file d'attente. Si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1.
Mais écoutez, si vous n'avez plus de questions, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Vous rappelez que nous publions donc les résultats d'Alten le 22 février au soir, post-bourse, et que donc la réunion analyste, malheureusement, va se retenir en distanciel le 23 au matin. J'espère que ce sera la dernière fois, mais on est obligé de faire avec. Donc, je vous dis au mercredi 23 février. Bonne soirée.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.